Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Cette conférence vous est proposée en partenariat entre l'UTB de Chalon-sur-Saône et la SFEN Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous remercions monsieur Antoine Ménager, qui est directeur du débat public autour de l'EPR numéro 2, donc deuxième version, EPR optimisé. Il va nous expliquer tout ça. Vous le voyez dans la petite fenêtre qui est marquée utilisateur de Zoom, donc c'est monsieur Ménager, hein.
Bonjour.
Voilà. Et donc, ça va se dérouler de cette façon-là. Vous écoutez la présentation. Vous avez la possibilité de déposer des questions dans le petit bouton qui est en bas dans la barre d'icônes, là, qui est marqué discussion. Et là, vous tapez en style télégraphique les questions que vous souhaiteriez poser, bien sûr, au fur et à mesure de l'exposé. On n'y répondra pas en temps réel, puisque le format est court. Mais il est prévu que nous fassions, c'est Monsieur Ménager qui nous a proposé cette formule, une séance de questions-réponses qui va suivre donc cet exposé, qui serait vraisemblablement à Chalon dans les semaines qui viennent, selon des modalités qu'on va discuter et dont on vous fera part. Puisque un des intérêts de l'inscription, c'est d'identifier les personnes qui ont assisté, enfin d'identifier les mails des personnes qui ont assisté à l'exposé. Et bien sûr, elles sont servies en priorité. Voilà. Eh bien, je n'en dis pas plus. Je vous propose, Monsieur Ménager, que vous commenciez votre présentation.
Très bien, bah écoutez, bonjour à toutes et tous, et puis surtout un grand merci pour votre invitation. Donc, vous l'avez dit, moi j'ai en charge chez EDF le débat public en cours et surtout qui se termine dans 4 jours. Donc, c'est pour ça que cette intervention tombait à point nommé. Alors, je vais essayer de vous parler pendant 25 minutes, 30 minutes, et qui laissera déjà l'opportunité de répondre à quelques questions tout de suite, même si évidemment on ne va pas épuiser toutes les questions, je pense. Et ça permettra effectivement de se revoir. Alors, mon exposé, il va démarrer sur pourquoi il y a un débat public en ce moment, mais je vais faire très court. Surtout, je vais vous dire de quoi on débat et le cœur de c'est quoi ce programme EPR2, c'est quoi ce réacteur, objet du débat. Et puis, je vous dirai quelques mots sur cette dernière ligne droite du débat, parce que vous avez encore l'occasion d'y contribuer, d'y participer, si vous le souhaitez, notamment via une plateforme en ligne. Voilà. Alors, un débat public, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est organisé par une autorité administrative indépendante qui est la Commission nationale du débat public, présidée par Chantal Jouanneau. C'est régi par le Code de l'environnement. En fait, en fonction d'un certain nombre de seuils, des projets doivent être proposés à la Commission nationale du débat public qui décide comment on doit concerter. Et donc là, pour le programme EPR2, elle a décidé l'organisation d'un débat public. C'était le souhait d'EDF de toute façon. C'est évidemment important pour nous parce que c'est un temps fort pour justement informer le public, dialoguer avec les territoires sur qu'est-ce que c'est que notre projet. Et puis surtout, en fonction de ce qu'on y entend, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte pour améliorer ce projet. Et puis, de façon aussi très concrète, ça fait partie du process d'autorisation. C'est-à-dire que de toute façon, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses, que tout serait déjà décidé, non, déjà il faut que la loi évolue encore, et puis surtout, il faut qu'EDF fasse ses demandes d'autorisation, qu'elles soient validées, mais pour faire nos demandes d'autorisation, il faut avoir rendu les conclusions du débat public. Donc le débat public, il est la première étape avant d'aller vers les demandes d'autorisation et la suite. Donc c'est pour ça que c'est à ce stade quelque chose d'important pour EDF. Ça dure 4 mois, je vous ai dit, on est à 3 jours de la fin. Sachez qu'en parallèle, il y avait une concertation, cette fois pilotée par le gouvernement, c'est en bas du slide, qui était une concertation pour justement écouter le public sur l'avenir énergétique du pays, une concertation nationale sur le mix énergétique. Donc là, on est sur un champ très large. On parle de l'énergie, on ne parle pas que de l'électricité et encore moins du nucléaire, vous voyez, mais c'est quand même pour une donnée d'entrée de la future loi dite de programmation énergie-climat et puis sa déclinaison, vous connaissez tous sûrement la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà. Et ce débat public, il intervient en même temps et évidemment, il va aussi peser dans tout ça. Voilà. Et puis, alors surtout, il avait une double dimension. Là, on va aller petit à petit dans qu'est-ce que c'est que PR2 et le sujet. Mais on débat à la fois évidemment, un projet concret de nouveaux réacteurs. Et vous savez qu'on a proposé ces nouveaux réacteurs à Penly en Normandie. J'y reviendrai sur le site déjà existant. Mais on a dit aussi qu'à la différence notamment de Flamanville, cette proposition, elle avait du sens que si on s'engageait dans un vrai programme industriel, renouer avec l'effet de série, l'effet palier qui a fait le succès, la construction du parc nucléaire actuel. Donc, il nous a été demandé, du coup, de débattre pas seulement du projet de Penly, mais qu'est-ce que ça voulait dire un programme industriel de 6 réacteurs EPR2, d'ailleurs en 3 paires, parce qu'on les fait par paire. Donc, c'est ça le périmètre du débat, et c'est pour ça que ce débat, il a à la fois une dimension nationale sur le programme industriel et finalement l'objet un peu générique, l'objet palier EPR2. Et puis sa dimension plus locale sur qu'est-ce que ça veut dire construire 2 EPR2 à Penly. Voilà. Alors ça, on y reviendra après. Et surtout de qu'est-ce qui se passe dans cette dernière ligne droite, parce que ceux qui suivent l'actualité nucléaire et des concertations, vous avez vu que c'était un peu agité en ce moment. Mais ça, j'y reviendrai après. On va surtout s'attarder maintenant qu'est-ce que c'est que ce programme. Ça avait été mis dans l'invitation. Vous avez certainement pas eu le temps d'aller y jeter un œil, mais évidemment. Quand on rentre dans un débat public, il y a un dossier, le dossier du maître d'ouvrage qui est EDF, qui présente dans le détail sa proposition, son projet qui est soumis au débat public. Vous avez ça sur le site, il y a le lien. C'est un document qui fait 250 pages et qui décrit en détail tous les contours de notre projet. Il y a la synthèse en orange qui est peut-être plus facile d'accès. Donc tout ce que je vais vous dire, finalement, c'est un peu. Non pas un survol, mais je dirais les éléments essentiels d'un dossier qui fait 250 pages, qui est en accès libre du grand public et donc de vous, et sur lequel vous pouvez aller approfondir tout ça. Voilà. Alors, là, je vais vraiment vous faire la logique de notre dossier qu'on a mis dans le débat et qui va vous parler plus précisément de l'objet. Bon, le premier point, évidemment, c'est pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça? Eh bien, parce que, on l'a dit, on se projette dans les futures trajectoires énergétiques du pays. Et là, il y a un consensus aujourd'hui, c'est que la cause du réchauffement climatique, c'est les gaz à effet de serre et c'est le CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il y a, je pense, à ce stade aujourd'hui, plus personne qui nie ça. Et donc, il faut absolument éliminer, éradiquer autant que possible nos émissions de CO2. Et ça, c'est l'objet d'ailleurs de la stratégie nationale bas carbone et qui fixe un cap pour 2050. Alors là, il y a une première notion, je suis sûr, vous êtes familier, mais qui n'est déjà pas intuitif, c'est que quand on se projette aussi loin et qu'on veut complètement neutraliser le carbone et l'éradiquer, c'est qu'il faudra commencer par consommer moins d'énergie. Donc ça, c'est les moins 40% de consommation totale d'énergie. Donc ça veut dire plus de sobriété. Alors ça, c'est des choix de société. On peut en discuter. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter en termes de sobriété? Je pense qu'il y a des vrais débats de société à avoir dessus. Mais on l'a vu là, avec le passage de l'hiver, au moins sur l'électricité, les Français ont été capables de consommer un peu moins. Mais il y a aussi une notion d'efficacité énergétique. Et c'est certainement là-dessus qu'il faut mettre beaucoup d'accent sur l'efficacité énergétique. Et dans cette efficacité énergétique, il y a un enjeu essentiel, c'est l'électricité. L'électricité est un facteur d'efficacité énergétique. Et surtout, toutes les projections montrent que pour décarboner l'économie, il faudra plus d'électricité, évidemment, du moment qu'elle soit bas carbone. Et donc là, on arrive au raisonnement qui est, il faudra plus d'électricité bas carbone, et donc il faut toutes les sources possibles. Et donc, il faut continuer à aller à fond sur les énergies renouvelables. Vous voyez, ça c'est EDF qui vous parle au sens large, et on est un groupe multi-électricité, il faut du bas carbone autant que possible. Alors, on est bien dans la complémentarité avec le nucléaire. Voilà, parce que le nucléaire, et vous avez un petit encadré en bas du slide, ça, c'est l'analyse du cycle de vie. Donc, on regarde de la construction jusqu'au démantèlement, en passant évidemment par l'exploitation. On a fait l'étude sur le parc nucléaire d'EDF, et le parc nucléaire d'EDF actuellement existant, c'est 4 grammes de CO2 par kilowattheure pour l'ensemble de ce parc en coût complet. On dit souvent, vous prenez pas en compte la construction ou le futur démantèlement. Non, c'est bien le coût complet, c'est des méthodes normalisées. Donc, c'est vraiment, enfin, je pense que vous le savez évidemment, mais le nucléaire est évidemment une énergie bas carbone. Et donc, la stratégie d'EDF, c'est de dire, il faut le plus de bas carbone possible. Et donc, il faut adosser aux renouvelables du nucléaire, à commencer par notre nucléaire existant. Évidemment, il faut essayer d'amener notre parc nucléaire existant le plus loin possible. En toute sûreté, bien sûr, et donc il faut faire les investissements pour améliorer en permanence la sûreté. Mais adossé à ça, comme on aura besoin de plus d'électricité et que notre parc nucléaire, même si on l'amène assez loin, à 60 ans, voire au-delà, il faudra de toute façon de nouvelles capacités. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux réacteurs nucléaires et qu'on a besoin de ce programme EPR. Bon, tout ça, c'est lié aussi à notre lecture. Vous avez l'encadré à droite des futurs énergétiques et les scénarios qui ont été produits par RTE. Donc RTE a produit une palette de scénarios, des scénarios 100% renouvelables jusqu'à des scénarios avec une part de nucléaire importante. Et évidemment, l'analyse d'EDF, c'est que c'est vraiment les scénarios avec une part de nucléaire significative qui sont les plus intéressants, et y compris d'un point de vue économique, quand on raisonne en coût complet. Et puis évidemment, ils sont bas carbone. Et puis l'autre élément essentiel là-dedans, c'est que ça contribue à l'indépendance énergétique du pays, au-delà de procurer un coût stable d'énergie. Donc ça, c'est la raison d'être de pourquoi on engage tout ça. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est comment on le fait? On a dit, engageons des nouveaux réacteurs. Et ces nouveaux réacteurs, donc ça a été dit en introduction par Monsieur Fournier, EPR2, optimisé, parce que évidemment, il faut qu'on se lance dans un programme industriel de quelque chose, je dirais, de solide, sur lequel on a de l'expérience, et j'allais dire malheureusement, de l'expérience, on en a acquis avec Flamanville sur un projet difficile, un projet douloureux, dans lequel on a beaucoup réappris, mais c'est justement parce que on a fait Flamanville qu'aujourd'hui on est en capacité de proposer ce programme EPR2. EPR2, c'est d'abord les leçons apprises de Flamanville, c'est aussi ce qu'on tire des autres projets dans le monde avec Hinkley Point en construction, mais aussi Taishan, qui lui est en exploitation avec ses deux réacteurs en Chine, et puis Okiloto, qui avait atteint ses 100% de puissance fin d'année dernière, qui a eu un petit passage à l'arrêt, qui là est reparti. Donc on a du retour d'expérience pour tirer les leçons de tout ce qui a été difficile et n'a pas marché. On est là pour optimiser le produit, mais par contre en gardant les atouts. Les atouts. Et ces atouts, c'est quoi? C'est son haut niveau de sûreté. Dans les réacteurs de troisième génération, si on fait du nucléaire, il faut qu'il soit sûr. Et ça, j'y reviendrai sur des caractéristiques plus techniques. Voilà. Mais surtout en le faisant, et je l'ai dit dès l'introduction, on peut plus se lancer sur un modèle unique. Ce qui a fait le succès du parc nucléaire actuel, c'est l'effet de série, à la fois parce que d'un point de vue économique, on comprend que les économies d'échelle sur l'effet de série, c'est essentiel, mais c'est surtout sur la courbe d'apprentissage. C'est sur le. Vous le savez bien, enfin, le parc a été construit. Moi, j'ai démarré ma carrière sur le site de Civaux et j'ai vu la fin de cette génération qui avait construit le parc nucléaire. On apprenait rien que d'une tranche sur l'autre sur le même site quand on construisait la première et que les mêmes équipes basculaient sur la deuxième. Enfin, c'est évident qu'on est beaucoup plus performant. Donc, quand vous êtes dans l'effet de série, vous avez cette courbe d'apprentissage. Et ce programme EPR2, il est là pour renouer avec ça. Donc, vous voyez, c'est plus que l'objet technique, c'est plutôt la façon dont on va être piloté ce projet sous forme d'un programme. Et je dirais, la façon de tirer les enseignements de Flamanville, ça dépasse EPR2, c'est toute la filière industrielle qui s'est remise en mouvement. Chez EDF, c'est ce qu'on appelle le plan Excel, mais je dirais, c'est EDF, mais toute la filière nucléaire à travers le GIFEN qui regroupe tous les industriels. Et donc c'est le nerf de la guerre. Et vous voyez, le troisième effet d'y aller sur un programme, c'est de vous donner de la visibilité. C'est-à-dire que non seulement Flamanville était difficile, mais ceux qui devaient résoudre les difficultés, ils n'avaient aucune perspective de pouvoir, dans la suite, pouvoir les mettre en application, les mettre en valeur. Donc, comment voulez-vous investir dans des usines, investir sur des compétences, embaucher des jeunes si vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait. Avec un programme industriel, vous avez cette visibilité. Et c'est ça d'abord qui doit ramener de la performance sur la conduite de nos projets. Voilà, donc ça, je pourrais y revenir. Je sais que voilà, vous êtes intéressé par les caractéristiques techniques qui était le titre de la conférence. Donc j'ai évidemment des éléments, mais vous voyez, la base, c'est quand même améliorer toutes les difficultés rencontrées sur Flamanville, mais c'est garder les atouts. Vraiment, réacteur de troisième génération, très haut niveau de sûreté, parmi les plus élevés au monde. Je reviendrai dessus, mais c'est évidemment c'est sa chaudière, c'est la prise en compte des accidents graves à la conception. Hein, donc pour même jusqu'à fusion du cœur, même s'il y a plein de dispositifs pour éviter d'en arriver là, en réduisant la probabilité de fusion du cœur, c'est que même si ça arrivait, les conséquences seraient extrêmement réduites, voire pas de conséquences pour l'extérieur. C'est ça la prise en compte des accidents graves à la conception. Et ce réacteur de troisième génération comme EPR, mais sur EPR2, garde ça. Bon, par contre, tirer du REX, j'ai dit, c'est améliorer la constructibilité, c'est en faire quelque chose de plus simple à construire, de plus standard, de plus optimisé. Avec l'effet de série, c'est aller vraiment dans une logique de simplification, d'industrialisation. On prend notamment, je vous ai cité le plan Excel pour retrouver cette maîtrise industrielle. On prend souvent cet exemple, c'est diminuer les références de robinets, de portes, plutôt que d'avoir des milliers de références, on les standardise. En fonction des cas d'usage, on a quelque chose sur catalogue et on prend le même objet et c'est celui-là qu'on déploiera sur toute la série du programme. Donc il y a des économies d'échelle, beaucoup plus, là on est plus dans la construction, sur le chantier, beaucoup plus de préfabrication. On veut par exemple réduire de 2 tiers le nombre de soudures à faire sur site, hein, au profit de soudures faites en usine, en préfabrication. Donc vous voyez, c'est des tas de choses comme ça. C'est aussi les méthodes d'ingénierie, puisqu'aujourd'hui on a énormément introduit le numérique dans tout le chaînage de l'ingénierie jusqu'à la construction. Donc tous ces outils doivent nous rendre plus performants dans son industrialisation et sa standardisation. Je vous ai déjà cité le retour d'expérience. Hein, donc évidemment, on a Taishan et Okiloto en production. La construction d'Inclepoint, donc tout ça évidemment nous aide. D'un point de vue plus technique, je vais pas aller là, j'ai pas le temps de tout développer. Il y a aussi des optimisations tirées des usages en exploitation, sans remonter trop loin. Vous savez que la conception EPR au départ était franco-allemande, issue des pratiques allemandes sur le Convoy et d'EDF plutôt sur le N4. Donc il y avait un certain nombre de choses qui étaient un peu des compromis. Pour les futurs exploitants des deux pays. Il y a des choses qui finalement, sur lesquelles on revient en arrière sur EPR2, qui est un réacteur plutôt à usage d'exploitation France. Je prends des exemples, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient faites pour faire plus de maintenance en fonctionnement, avec notamment les quatre files indépendantes de sûreté, les quatre trains de sûreté. En fait, le quatrième était surtout dédié à des. Pour faire des opérations de maintenance en fonctionnement. Nous, quand on pèse ça à la lumière de nos pratiques d'exploitation et puis des contraintes aussi que ça amène en exploitation dans les spécifications techniques, finalement, il n'y a pas de gain à ce quatrième train de sûreté. Donc, sur EPR2, on revient à 3 trains de sûreté qui gardent exactement le même niveau de sûreté, mais qui va finalement simplifier la construction et y compris l'exploitation. Un point sur lequel on simplifie le génie civil, c'est qu'on est sur une enceinte qui était une double enceinte sur EPR, où on revient cette fois avec une simple enceinte avec revêtement métallique. Par contre, c'est une enceinte qui continue à garder la capacité de résistance à la chute d'avion. Hein, donc, en fait, fonctionnellement et d'un point de vue de la sûreté, ça garde les mêmes caractéristiques de confinement pour résister à l'accident à l'intérieur. Capacité à la tenue, à la pression à l'intérieur et résister à l'agression par l'extérieur, chute d'avion. Donc, même si elle passe en simple enceinte, elle garde les mêmes caractéristiques de sûreté. Voilà pour quelques exemples. Pareil, dans le bâtiment réacteur, il n'y aura plus d'accès réacteur en fonctionnement. Donc, quelques exemples techniques. Sur la chaudière nucléaire, parce que là, je crois savoir qu'en tout cas en Bourgogne, il y a beaucoup de gens de Framatome. Donc, là, on veut capitaliser au maximum à la fois sur les études de sûreté de la chaudière pour Flamanville et plutôt Taishan d'ailleurs. Hein, pour prendre ses études de sûreté. Et du coup, l'expérience, pareil, au creusot pour toutes les pièces. Et du coup, on veut surtout stabiliser la chaudière. C'est-à-dire que sur EPR2, on ne se lance pas à reprendre toutes les études, à tout refaire. On veut plutôt capitaliser au maximum. Hein, et c'est plutôt tirer profit de toute cette expérience acquise. Même s'il y a évidemment quelques adaptations, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail du sujet exclusion de rupture, mais il y a des petites choses derrière tout ça. Mais on veut surtout capitaliser au maximum l'expérience acquise à travers Flamanville, Taishan, par exemple. Et puis sur la partie conventionnelle, je vais pas m'attarder, mais il y a des choses intéressantes en termes de diversification, notamment sur la source froide. Avec une station de pompage qui est un peu simplifiée, qui va utiliser aussi de façon diversifiée des choses comme sur le refroidissement de civaux. Bon, si vous avez des questions, je pourrais vous parler de ça après. Voilà. Bon, tout ça, je l'ai dit aussi tout à l'heure. Il y a eu une énorme, quasiment, je peux dire, révolution en termes de l'introduction des outils numériques. Alors, il y avait déjà notamment le palier N4 était entièrement conçu sous CRO, mais aujourd'hui, il y a un chaînage de l'ingénierie aujourd'hui qui est passé à l'ingénierie système, où il y a un chaînage des exigences de bout en bout qui ira jusqu'à la réalisation chantier, et tout ça rentre dans des outils partagés, y compris qui vont faciliter le travail avec nos différents fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment une révolution pour travailler mieux ensemble. Et puis, tout ça est couplé avec des visions 4D où y compris on est capable de se projeter sur l'organisation du chantier en fonction de tous ces éléments. Voilà, donc vous voyez beaucoup de caractéristiques techniques, beaucoup de choses apprises sur les projets précédents et qui vont trouver toute leur force ici. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est que ce premier projet, je vous l'ai dit, il va être à Penly. Alors peut-être redire comment se fait le choix des sites. Vous doutez bien qu'il y a des critères techniques d'abord, c'est-à-dire qu'on ne met pas un réacteur nucléaire partout comme ça où on aurait envie. Il y a beaucoup d'études de sûreté sous-jacentes sur justement résistance aux agressions en tout genre. On pense au séisme, bien sûr, on pense à la source froide. On pense évidemment, est-ce qu'il y a les lignes de RTE, est-ce qu'il y a la place aussi, voilà. Est-ce qu'on a le terrain, voilà. Donc ça, c'est des critères techniques. Donc évidemment, il y a des sites qui sont meilleurs que d'autres, mais ce qu'il faut surtout, c'est pas avoir de notes éliminatoires. Mais vous doutez bien qu'il suffit pas d'être bon techniquement, il faut surtout qu'il y ait des gens qui ont envie de nous, et donc croiser à ces critères techniques, la mobilisation des territoires est essentielle. Pour dire, bah oui, nous, on aurait envie d'accueillir des nouveaux réacteurs nucléaires. Et le croisement de tout ça fait vraiment que Penly s'est imposé, parce qu'à la fois, c'est un bon site, parce qu'il avait été étudié, vous savez qu'il y avait déjà eu un projet d'EPR, donc c'est un site qu'on connaît très bien, qui avait la place pour accueillir d'autres réacteurs dès l'origine. Donc Penly, d'un point de vue technique, ça cochait déjà toutes les cases. Mais la Normandie s'est largement mobilisée politiquement de tous les bords et de tous les cercles. Et donc, c'est lui que EDF avait choisi pour être le début du programme. Et puis après, vous savez qu'on a proposé Gravelines pour la deuxième paire. Et puis, on n'a pas encore statué pour la troisième paire, mais qui est plus proche de vous, là, qui serait soit à Bugey, soit à Tricastin. Voilà. Alors, pour les éléments, quelques éléments temporels quand même de tout ça, c'est que pour Penly, alors vous avez quelques images de à quoi ça pourrait ressembler. Penly, aujourd'hui, quand on empile un peu tous les points, y compris le débat public en cours, les demandes d'autorisation, on pourrait aller vers un début des travaux préparatoires qui pourrait être en 2024, et il y a quasiment 3 ans et demi de travaux préparatoires, pour aller sur un premier béton aller fin 2027. Et est une première mise en service en 2035. Donc, vous voyez, tout ça paraît loin, alors qu'aujourd'hui, finalement, on est déjà dans cette histoire-là. Pour vous donner un élément de référence, ça fait un planning pour le premier du programme, qui serait la tête de série, de 105 mois. Ça, c'est important de l'entendre. 105 mois, alors que, évidemment, dans les affres de Flamanville, il y a eu des difficultés, mais il y a eu aussi le péché originel de vendre quelque chose qui était totalement irréaliste au regard de ce qu'on avait fait sur le parc, puisque je rappelle que Flamanville, au départ, était prévu pour 54 mois, alors qu'on part, vous voyez, ici, pour le premier, pour 105. Évidemment, dans la suite de la série, les 105 ont vocation à se réduire petit à petit, mais pour vous dire qu'on ne parle pas du tout sur les mêmes bases. Voilà. Et puis, bah là, ça me fait la transition pour finir sur vous dire que, de toute façon, le débat public en cours, vous en donnez quelques nouvelles, mais de toute façon, les concertations, elles auront lieu tout au long du projet. Puis vous le savez que pour nos centrales, une fois qu'elles fonctionnent, elles ont les commissions locales d'information autour d'elles. Donc, je vous ai dit, on est à 4 jours de la fin du débat. Il y a eu un débat en 4 mois qui a été rythmé par des temps forts qui sont des grandes réunions publiques. Vous avez du vert sur toutes celles qui se sont passées. Vous avez du jaune sur celles qui ont dû être, qui ont été empêchées par des manifestants, voilà, qui ont fait que bah, les réunions ne pouvaient pas se tenir. Donc, je ne vais pas commenter tout ça, mais je suis sûr que vous pouvez avoir des questions parce que vous en avez certainement entendu parler. Ce qui est important, c'est que le débat ne s'est jamais arrêté et que malgré ces péripéties sur la fin, nous, on considère qu'à ce stade du débat, on a vraiment beaucoup de choses très intéressantes, très riches qui se sont exprimées et ça va pouvoir justement nourrir notre décision de maître d'ouvrage, comme je vous disais en introduction, qui est le préalable pour aller vers nos autorisations. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de choses très riches. Bon, en plus, même s'il y a eu des séances empêchées, c'était que dans le dernier mois. Et puis surtout, il y a eu plein de choses en dehors de ces grands temps forts. Il y a eu plein d'autres réunions. Il y a eu la plateforme du débat. Et justement, il y a les temps forts, mais il y a aussi en continu sur une plateforme du débat public. Hein, en cliquant sur la présentation, vous irez directement sur le lien. Donc aujourd'hui, on a répondu à plus de 200 questions qui ont été adressées à EDF. Il y a eu plus de 1 000 avis qui ont été exprimés. Il y a des cahiers d'acteurs. La semaine, d'ailleurs, on a publié un. Il y a plein de Logifen que j'ai cité, on a publié un. Voilà, il y a 46 cahiers d'acteurs publiés. Il y a un certain nombre d'entreprises qu'on a publiées. Il y a évidemment plein d'associations, des pour et des contre. Hein, voilà, mais donc, c'est là où je disais qu'il y a beaucoup de matière. Mais c'est là-dessus que vous avez encore moyen, si vous voulez prendre part au débat, y compris dans cette dernière ligne droite, vous pouvez aller vous connecter et poster un avis pour exprimer ce que vous voulez. Peut-être aussi vous dire, parce que c'est une façon d'aller plus loin aussi sur les éléments techniques, dans ce débat, il y a une démarche dite de controverse technique, à savoir que les différentes parties prenantes du débat ont pu argumenter par écrit autour des 7 questions que vous avez à l'écran. Je ne vais pas les détailler, vous les lisez, mais il y a des choses importantes, notamment comme la vulnérabilité des réacteurs face au changement climatique, puisque évidemment, je m'aperçois que je ne l'ai pas encore dit, c'est un réacteur qui est conçu pour fonctionner au moins 60 ans. Donc vous voyez, avec son déploiement par programme, les réacteurs EPR2, si on les lance et qu'ils se décident, ils seront encore là en 2100. Donc finalement, on nous dit, bah oui, mais le climat en 2100, est-ce qu'il n'y aura pas trop d'eau au bord de la mer? Est-ce qu'il y aura assez d'eau sur les rivières, par exemple? Donc on a argumenté tout ça, et tout ça, c'est argumenté, et vous pouvez y avoir accès. On nous a aussi posé les questions, qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec ce qui se passe en Ukraine et si ça arrivait en France, comment on ferait, etc. Donc, il y a des arguments autour de tout ça. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site du débat. Et l'IRSN aussi a produit 2 rapports qui sont le point de vue de l'IRSN assez synthétique et intéressant pour comprendre ce que c'est que le réacteur EPR2 en complément de ce que je vous ai dit et que vous retrouvez dans notre dossier. Donc, voilà quelques petits points pour aller plus loin. Et puis, encore une fois, voilà, si vous voulez contribuer, il y a la plateforme du débat. Voilà, j'ai conscience que je vous dis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et tout en les survolant, mais ça vous fait beaucoup de points d'accroche pour me poser des questions. Je suis sûr que vous en avez. Et donc, bah, je vous propose de commencer à y répondre avant, peut-être de se retrouver, en Bourgogne, pour continuer ces échanges.
Et alors, ce que je vous propose, c'est que je vais lire le chat, là, hein,
Très
et
bien.
vous allez les répondre verbalement.
Bien sûr.
Première question, la capacité de la fange du Creusot est-elle suffisante pour élaborer les pièces de la cuve? Sujet inépuisable. Voilà. Qu'on connaît bien en Saône-et-Loire. Voilà. Allez-y.
Ah, bah, je pense qu'à la limite, ceux qui posent les questions, qui doivent être des locaux de l'étape,
Oui.
sont quasiment mieux placés que moi pour répondre. Non, mais après, tout dépend dans quel périmètre et quelle granulométrie on descend. En premier niveau de réponse, je répondrai oui pour faire face à ce programme. Après, vous le savez bien, c'est que quand on parle de la cuve mais globalement du circuit primaire. Il y a, voilà, il y a un certain nombre de pièces forgées, il y a le couvercle, il y a plein de choses, et que oui, il y a encore des choses qui sont faites au Japon, mais je pense que le mouvement d'ensemble, et là je ne parle pas pour tout de suite, et puis, mais le mouvement d'ensemble qui sous-tend ce programme EPR2, ce qui sous-tend tout ça, c'est quand même c'est derrière un projet de réindustrialisation. Ça sous-tend aussi le mouvement de réindustrialisation et de relocalisation en France. C'est pas propre d'ailleurs ce que je dis au nucléaire. C'est vrai pour l'industrie en général. On le voit dans la pharmacie, on le voit dans plein de domaines. Donc la tendance et le programme EPR2 veut concourir à ça. Je parlais d'indépendance énergétique. Bah finalement, tous les domaines, là on entendait dans l'actualité, on entendait parler de la poudre à canon, malheureusement. Enfin, il y a plein de domaines où il y a une prise de conscience industrielle au sens large, où il faut essayer d'être beaucoup plus autonome sur un certain nombre de sujets. On peut le dire aussi du combustible. Donc le mouvement d'ensemble, c'est celui-là. Après, qu'à l'instant T, que pour les premiers, on ne puisse pas tout faire, probablement, mais le mouvement d'ensemble, il est plutôt celui-là.
D'accord. Bon, alors évidemment, on espère tous, puisque beaucoup de gens qui vous écoutent connaissent effectivement le sujet, ne serait-ce qu'à commencer par moi-même, puisque c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé au tout début des années 90, donc vous voyez, ce n'est pas un sujet neuf, hein. Donc, la question suivante, c'est une question, alors je la lis telle qu'elle est écrite, hein. Quels impacts de la reconfiguration, entre guillemets, du débat public sur le processus réglementaire de la demande d'autorisation? Alors, je ne sais pas si vous comprenez le sens de la question.
Je vais essayer. Alors, j'ai été très vite, mais en fait, il n'y en a pas. Enfin, venez nous, hein, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la mesure où, même s'il y a eu deux séances empêchées, un peu reconfigurées, nous, on considère que, notamment les trois premiers mois, plus un certain nombre d'autres dispositions auxquelles on a participé, plus un certain nombre de contributions, parce que, par exemple, les séances empêchées, il y avait une séance sur les coûts et les financements à Lille qui a été empêchée par 12 manifestants. Elle avait été précédée, par exemple, de deux webinaires de 2 fois 4 heures avec des tas d'intervenants sur ces aspects économiques où les éléments sont à disposition du public. Je prends cet exemple, et c'est vrai à peu près surtout, pour vous assurer que, en tout cas, de notre point de vue EDF, de l'expression du public avec de la matière, elle est là. Et que finalement les péripéties de la fin remettent pas en cause ça. C'est important parce que du coup ça assoit la crédibilité de la décision qu'on va prendre au vu de tout ce qu'on aura observé du débat, et du coup on voit pas de raison que ça nous empêche d'aller ensuite faire notre dépôt de DAC. Ce qui aurait été embêtant, c'est que les perturbations soient telles qu'on puisse dire que ça empêchait une partie du public de s'exprimer ou qu'il manque des éléments d'appréciation du projet. Pour nous, tout a pu être dit et on a tout en main. Donc, ça ne nous empêcherait pas de prendre notre décision et puis, en fonction de notre décision, de déposer nos demandes d'autorisation. Voilà. En tout cas, ça, c'est notre point de vue. Mais je pense qu'il est assez solide. Et la commission elle-même, qui a réorienté le débat, a jamais mis en cause le contenu lui-même. Voilà.
Bon, je passe à une question. Il y a eu encore une question qui est sur les forgés, mais qui vous y avez en fait déjà répondu. Donc, on confirme qu'au moins dans une première phase, les grosses viroles porte-tubulures pour des questions de masse et de moyens de production seront encore fabriquées au Japon. C'est très bien, le Japon, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est une opportunité s'il y a la poursuite du programme de augmenter les capacités en France.
Oui, alors je me permets peut-être un petit point, pas pour re-enchaîner là-dessus, mais finalement, ce que j'ai pas dit, c'est que, enfin, ce que j'ai dit, c'est que le périmètre du débat, il était bien sur le programme industriel des trois paires, donc des 6 réacteurs EPR2, et puis son projet appendu. Et on tient dans le débat et dans ce que je vous présente à rester là-dessus. Par contre, évidemment, j'ai pas cité le discours du président de la République à Belfort il y a un an maintenant. Il avait demandé aussi à EDF d'étudier la possibilité d'aller jusqu'à 14 EPR2. Et donc ça, quelque part, faut déjà finir le débat sur Penly et le lancement du programme des 6. On va aussi devoir remettre au gouvernement, un peu comme ça avait été fait pour le programme de 6, quelque part, notre analyse et notre proposition pour ce qu'on appelle dans le jargon là, une extension, pour justement les 8 supplémentaires en cas de paire. Donc ce travail, il va évidemment s'engager. Et donc évidemment, les capacités industrielles, elles doivent aussi se projeter, pas finalement, probablement pas pour 6, mais pour probablement 14, sinon plus. Mais tout ça est allé dans le temps. Donc c'est pour aller un peu dans le prolongement de la réponse de la personne d'avant. Donc évidemment, il est probable qu'il y ait une proposition de suite. En tout cas, c'est ce que l'État avait demandé à EDF d'étudier et d'aller au-delà des 6 le moment venu.
D'accord. Alors, moi, je me permets de poser une question, je n'ai pas tapé. Ce ne serait pas inutile que vous rappeliez l'intérêt des doublons, enfin des duos de construction.
Bien
J'ai
sûr.
la réponse, mais je ne suis pas persuadé que tout le monde la connaisse bien. Donc, merci
Oui,
de répéter
oui.
un peu.
Oui, alors je l'ai dit effectivement très vite. D'ailleurs, on ne parle plus de 6 réacteurs ou 14, on parle de 3 paires. Hein, parce que c'est la construction par paire. De toute façon, la construction du parc actuel s'est fait à chaque fois minimum par paire, voire des sites avec 4 tranches d'emblée. Je parlais, là, on est vraiment l'effet de série. On parle de l'effet de série d'un programme. On commence déjà sur le même site, hein, sur la même construction. Je veux dire, vous avez un facteur d'efficacité quand les équipes basculent. Alors, au passage, nous, aujourd'hui, on a un optimum qui est entre 12 et 18 mois de décalage entre le premier de la paire et le deuxième sur le même site. Vous avez les équipes qui peuvent basculer en continuité sur la suite. On l'observe actuellement sur Hinkley Point, hein, mais on reconstate des choses qu'on avait constatées par le passé sur le parc, où il y a de 30 à 50% d'efficacité par les équipes qui font le même travail sur le deuxième en construction. Moi, je ne l'ai pas dit en me présentant. J'ai été le directeur du chantier de Flamanville 3 de 2011 à 2016. Donc là, c'était un seul. Mais il y avait quand même un certain nombre de bâtiments qui étaient des bâtiments identiques. Je pense par exemple au bâtiment des diesels et qu'on a construit à 3 ans d'écart. Et on a été 2 fois plus rapide sur le même bâtiment 3 ans après. Donc, enfin, le facteur d'apprentissage, il est clé. J'ajoute un point aussi, c'est que c'est un facteur de résilience et d'absorption des défaillances qu'on peut avoir. Clairement, c'est vrai dans les essais de démarrage, mais même avant dans la construction. Si vous avez un défaut sur une pièce ou vous cassez quelque chose en essai, vous pouvez, et ça c'est largement pratiqué comme ça, vous pouvez aller, entre guillemets, piquer la pièce sur la deuxième à côté, qu'aura le temps de trouver, de la faire venir d'usine, et puis vous, tout de suite, de vous dépatouiller sur l'une. Donc en plus, ça offre des souplesses de construction et entre guillemets, de rattrapage, que quand vous êtes avec un truc unique, comme vous êtes à Flamanville, dès que vous avez quelque chose qui vous plante, vous êtes à l'arrêt. Alors que quand vous les construisez par deux, vous avez des petits facteurs de souplesse comme ça. Voilà, je ferme la réponse.
Oui. Alors, autre question, je saute. Est-ce qu'on peut, enfin, dans les études, mais évidemment, c'est très prématuré, est-ce qu'on peut passer à une vitesse de réalisation supérieure dans l'extension éventuelle de 6 à 14? Ça dépend, bien sûr, des moyens industriels. Voilà.
En tout cas, c'est au cœur de la demande. C'est
D'accord.
au cœur de la demande. L'idée, je vous ai quand même parlé de cet grand objectif là, de politique nationale, mais européenne, d'atteindre de la neutralité carbone en 2050. Et ça s'appliquerait aussi à l'extension. C'est-à-dire que quelque part, faudrait avoir tout ça en service pour 2050. Donc, quand vous dites ça, ça veut dire que on serait amené à augmenter un peu la cadence des enchaînements des paires après déjà les 3 premières.
Alors, une question qu'on ne peut pas contourner d'une façon la plus synthétique possible, le coût.
Bien sûr, bien
Hein?
sûr, bien sûr. Alors, il était sur une des planches.
Oui.
Vous avez dû voir les 51,7 milliards. D'ailleurs, je vais peut-être arriver à la remettre rapidement sous nos yeux. Donc ça, c'est le coût, comme on dit en langage financier, overnight. C'est vraiment si vous dépensiez tout tout de suite dans la nuit, là, en une seule fois. Alors, comment c'est composé? Il y a les coûts de développement, on va dire les coûts d'ingénierie. On va dire du palier. Donc, c'est là où c'est intéressant. Plus votre série est grande, plus du coup, ça, vous l'avez dépensé une fois pour la série, c'est intéressant. Vous avez après les coûts des différentes paires. Alors, après, il y a des petites variations parce que selon les effets de cycle, vous avez des travaux préparatoires qui sont plus ou moins importants. Et par contre, comme vous êtes déjà dans l'effet de série, vous avez un gain. Donc, il y a un peu le croisement de. Je débute dans l'effet de série, donc je commence à réduire le coût des paires suivantes, mais en même temps, des fois, je peux avoir des effets de site où j'ai des travaux préparatoires et d'aménagement plus importants. Mais ça, donc, voilà. Et puis dedans, bah, il y a les coûts, il y a les coûts d'ingénierie, il y a les coûts de procurement au sens large. Il y a les coûts, y compris les provisions de futur démantèlement hein, et déchets. C'est 1,7 milliard hein, pour information. Et ça, je dirais, on applique les règles qui s'appliquent à tous les exploitants nucléaires et à tous les projets nucléaires. Donc ça, c'est provisionné aussi dès le départ. Mais après, vous savez qu'on provisionne au fur et à mesure de la vie de l'installation. Mais donc, il y a tous ces coûts. Après, c'est hors coût, évidemment, de financement. Alors déjà, le premier truc, c'est que c'est des euros de 2020, d'octobre 2020. Donc aujourd'hui, on est en 2023, on entend tous parler de l'inflation. Évidemment, en euros de 2023, ça serait plus ça. Mais ça, c'était clair aussi dès le départ. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça, on le cache pas, on n'a pas... honte, hein, c'est des éléments financiers qui sont sur la table, qui sont publics et qui ont été audités par deux fois par des audits commandités par le gouvernement. Alors, dans le dossier du maître d'ouvrage que je vous ai cité, on a accès, de toute façon, ils sont publics, ces rapports d'audit, et il y a les liens et vous pouvez les consulter. Je dirais la décomposition fine et les provisions et les risques qui sont associés à tout ça sont dit en toute transparence. Bon, donc ça, c'est le contour. Après, vous savez, le vrai sujet, c'est OK, 51,7 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais c'est surtout c'est comment ça se finance. Et vous savez que ce qui coûte cher dans des projets nucléaires qui sont sur du temps long, c'est plutôt comment on finance ça dans la durée. Et finalement, ce qui coûte finalement le plus cher, c'est l'argent. C'est le coût de l'argent qui va servir à acheter, entre guillemets, ces 51,7 milliards d'euros. Et là, pour le coup, bah ça, c'est des discussions qui commencent tout juste entre EDF et l'État, qui est à la fois son actionnaire, mais qui est aussi celui qui peut mettre en place des régulations ou des aides ou pas. Et donc, bah, toutes ces discussions commencent et aujourd'hui, bah, tout est à peu près sur la table. Bon, en général, plus vous êtes adossé à l'État, moins l'argent vous coûte cher, parce que l'État offre des garanties et ça fait que ça vous couvre des emprunts, vous empruntez moins cher. Donc, de façon générale, plus on est adossé à un État, solide, moins l'argent coûte cher. Voilà. Et donc, c'est plutôt ça, l'intérêt. Et donc, il y a une question de curseur. Et vous savez aussi que plus on est aidé par l'État, plus il faut montrer des contreparties, notamment à la Commission européenne, pour montrer qu'on ne distord pas la concurrence. Donc c'est un peu cette équation qui est en place aujourd'hui, mais elle fait que se discuter. Il est trop tôt pour dire vers quoi on s'achemine. En tout cas, c'est une question essentielle.
Bien sûr, donc ce que je vous propose, c'est qu'on arrête un petit peu à ce niveau. Et donc déjà, encore une fois, merci beaucoup pour cet exposé par nature un petit peu court et un petit peu synthétique, un peu rapide. Mais on a prévu une deuxième mi-temps, on va dire. Et donc on pourra, en termes de durée, pouvoir beaucoup plus rentrer dans les détails techniques dans une première phase et également dans la partie questions-réponses, disons, aller un petit peu plus loin dans les débats. Donc, je remercie tous les auditeurs d'avoir assisté à cet exposé. Donc, on est toujours un petit peu stressé quand on met en place tout ça. Bon, apparemment, tout s'est bien passé. Et donc, merci beaucoup, monsieur Ménager. Et puis, je reprends contact avec vous pour définir, si vous voulez, les modalités pratiques de cette deuxième mi-temps.
Très bien, bah volontiers. En tout cas, merci encore pour l'invitation. Et puis, je vous dis, il vous reste 4 jours pour participer au débat en ligne si vous voulez le faire.
Voilà, merci beaucoup et au revoir à tous.
Merci, au revoir.
Je clôt la réunion.